Bien, bonjour à tous et à toutes. Je rends grâce à notre Seigneur qui a inspiré notre frère Jérémie pour l'introduction de ce culte. C'est vrai qu'il m'avait demandé de quoi j'allais parler. Je lui avais dit que j'allais parler du chapitre 4 et 5 dans le livre de l'Apocalypse. Et il a su entamer ce livre avec le premier chapitre. C'est assez fort pour certains ou certaines, parce qu'on fait des signes. Seigneur, nous voulons remettre entre tes mains ces moments. Merci pour ta grâce, ton esprit qui m'a aidé, qui m'a soutenu, qui m'a éclairé pendant la préparation. Et Seigneur, que ce partage puisse être bénéfique pour chacun d'entre nous. Pour ceux de mes frères et sœurs qui te connaissent, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, et pour tous ceux qui ont besoin d'être renouvelés et renforcés dans cette connaissance de ta parole. Merci également pour ce livre qui peut paraître obscur ou complexe à interpréter, Seigneur, mais ton esprit est là et fait ce travail magnifique de nous éclairer, de nous instruire, parce que tu es présent. Amen. Donc le titre de ce message peut s'intituler « Le culte vu par Dieu à travers les chapitres 4 et 5 du livre d'Apocalypse ». Donc nous l'avons vu, c'est l'apôtre Jean qui a écrit ce livre sous l'inspiration de l'Esprit. Il est question d'ange, mais également d'Esprit. Et lorsque, comme l'a dit Jérémie, Jean a connu personnellement Jésus dans sa vie, il l'a côtoyé, il l'a touché, ils ont mangé ensemble, ils ont eu des tas d'aventures, des épreuves ensemble, en même temps des moments de gloire ensemble. Et à l'âge de 84 ans, Jean est exilé sur l'île de Patmos, qui est une petite île parmi des dizaines d'autres au large de la côte de la Turquie. Et il a 84 ans. Et il mourra à l'âge de 90 ans, une fois de retour à Éphèse. Donc dans les trois premiers chapitres, Jean est conduit à écrire, on lui donne l'ordre, écris ce que je vais te dire, ce que je vais te montrer. Et au chapitre suivant, la même voix lui dit, monte, et je te montrerai ce qui doit arriver après. Alors dans les chapitres 4 et 5, on a une seule et même vision, mais en deux volets. Donc on va voir ces deux volets. Et les tableaux et les scènes dont on va être les témoins en quelque sorte vont mobiliser notre vue et notre ouïe. Il s'agit pour entrer dans ces versets-là, dans ces chapitres, d'abandonner un peu les mots mais de voir des images, de voir des lieux, de voir des scénarios, de voir un spectacle, un panorama. Dans le premier volet, Jean, conduit par l'esprit, et passe à travers le voile qui le cache aux hommes. Bien sûr, c'est la volonté du Seigneur de lui faire passer ce voile. Ça veut dire qu'il arrive dans un monde auquel il est complètement étranger, même s'il en a déjà un peu entendu parler. Et la réalité spirituelle qu'il va décrire, eh bien, il va la décrire avec les faibles mots que nous, humains, nous pouvons employer. Et il faut donc laisser ces images nous pénétrer. Quand l'apôtre Jean arrive dans le ciel où il a été transporté, il y a une chose qui domine devant lui, un trône. Ce trône est le centre de tout dans ce sanctuaire céleste. D'abord, un trône. Le trône éclipse tous les autres acteurs ou objets qu'il y a autour. Et puis Jean n'arrive pas à décrire celui qui est sur le trône, tant que l'éclat de celui-ci, celui qui est sur le trône, bloque toute vision. Mais il y a cet éclat fabuleux, formidable. Et autour du trône, on voit des éclairs. On entend des voix, des coups de tonnerre. On a tous plus ou moins entendu le tonnerre ces semaines, ces jours-ci. Et c'est parfois très puissant. ça peut faire sursauter et on est dépassé par la puissance mise en œuvre dans les nuages sur la terre. Et autour de ce trône, il y a également 24 trônes où sont assis 24 vieillards ou anciens selon les traductions. Et ces personnes, ces vieillards, représentent le peuple de Dieu des deux alliances, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et devinez, est-ce que nous pourrons être parmi ces personnes? Oui, parce que nous appartenons à ce peuple de Dieu racheté dans la deuxième alliance. Et ce qui est fabuleux, c'est que nous existons devant Dieu. Ils sont devant Dieu, ils les voient. C'est une réalité, nous existons. Et nous existons devant lui. Autant Dieu nous accueille, autant nous allons à lui pour l'adorer. Et ça, c'est le cadeau que Jésus nous fait. Et ce cadeau est intouchable, il est immuable, il est pour toujours. À côté des 24 vieillards, il y a 4 êtres vivants. Alors je vais passer sur tous les symbolismes qu'il y a, mais ça représente tous les êtres vivants de la création. Et donc dans ce premier volet de la vision, tout ce qui vit reconnaît sans cesse le caractère unique de celui qui est assis sur le trône. Ainsi, dans le chapitre 4, verset 8, nous pouvons lire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » C'est donc la reconnaissance de ce peuple racheté, de tous les êtres vivants, de toute la création qui est là pour dire trois fois saint pour celui qui est assis sur le trône. Et on répète en même temps qu'il est tout puissant et qu'il est éternel. Et sans cesse, le peuple de Dieu confesse la gloire du Seigneur. Dans le verset 4-11 suivant, « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance. » Car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Encore une fois, tu es le Seigneur, tu es le Dieu. Tu es digne de gloire, d'honneur et de puissance, parce qu'il a tout créé. Celui qui est sur le trône tient dans sa main un livre ou un rouleau, selon les interprétations. Mais ce rouleau est fermé par 7 sceaux, c'est-à-dire 7 systèmes qui l'empêchent d'ouvrir et qui ont une espèce de cire qui permet d'authentifier que jamais personne ne l'a ouvert. Sinon, ce sceau, ce cachet, aurait été rompu. Et aucune créature de Dieu n'est capable de l'ouvrir. C'est à ce moment que Jean aperçoit un agneau qui se tenait debout et qui semblait avoir été égorgé. J'ai voulu garder ce mot égorgé, souvent on utilise le terme immolé, et je crains que dans notre manière de voir, ça atténue la chose. Il est égorgé, mais il est debout, il est vivant. On arrive donc au deuxième volet de la vision, qui braque les projecteurs sur l'agneau, sur notre Rédempteur. Et lorsque l'agneau reçoit le livre, et le prend en main, tous les êtres présents autour du trône se prosternent et chantent un cantique nouveau qu'on trouve dans le verset suivant, le verset. Oui, tu l'as le temps. Tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Donc ce rachat, il a lieu pour tous les hommes et les femmes que Dieu a créés. La volonté de Dieu, c'est que tout soit racheté. Mais ça a été acheté à un grand prix. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Il s'agit de nous, des rois, des prêtres pour notre Dieu et nous régnons sur la terre. C'est-à-dire que le royaume est déjà ici, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas à attendre d'aller ailleurs, en haut, à côté de Dieu, pour être dans son royaume. Et ce cantique nouveau affirme que le Fils de Dieu, qui a été crucifié, ressuscité, glorifié, le seul unique qualifié pour conduire ce qui doit arriver après. non seulement ce que nous avons vécu, le temps qui s'est écoulé, mais en même temps ce qui va arriver. Il est le seul qui puisse, il gère tout le temps, le passé, le présent et notre éternité. Il est important de comprendre le sens de cette vision de Christ qui met en mouvement ce que les hommes considèrent le plus souvent comme des accidents de l'histoire. Parce que souvent nous croyons que les accidents de l'histoire, les révolutions, les guerres, ou les accidents de la nature, comme les tremblements de terre, les guerres, les famines, les épidémies, ce sont des accidents. Cela est sous le contrôle de notre Seigneur. On ne comprend pas toujours, mais le Seigneur veut nous rappeler que ce péché nous a coupés de tout et que notre univers est endommagé, est abîmé. Mais il est souverain sur toute chose, sur chaque élément de notre vie, les bons moments comme les mauvais. Mais il est souverain. Et c'est ce que, dans ce ciel céleste, l'Esprit veut nous rappeler, que Jésus est au contrôle de tout. Tout à l'heure, il a été question d'anges, et il est dit que les anges innombrables au service de Dieu proclament que dans le verset 12, il est digne à l'agneau qui fut égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et tous les êtres créés qui peuplent le monde répondent au verset 13, celui qui siège sur le trône, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Verset 14, les quatre êtres vivants, ça veut dire tous les êtres créés, tous les êtres de la création répondaient Amen. Et les représentants du peuple de Dieu, les rachetés, vous, mes frères et mes sœurs aussi, se prosternèrent et adorèrent. Alors une question, dans le ciel qui est la présence de Dieu, c'est toujours, est-ce que c'est toujours l'heure du culte? Qu'est-ce que ces versets que nous avons lus nous enseignent sur le temps du culte? Alors bien sûr, pour nous, le culte et l'adoration sont souvent liés à des moments précis dans la journée ou dans la semaine. Alors nous appelons culte ce temps du dimanche matin et culte personnel le temps que nous mettons à part dans nos journées pour la méditation et la prière. Mais qu'en est-il du culte que Jean découvre au-delà du voile? Quelle est cette réalité ultime? Verset 9 dans le chapitre 4. Et chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui est sur le trône, à celui qui vit éternellement, verset 10, les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône. Ça veut dire qu'ils sont sur un trône, ils ont une couronne sur la terre, nous aurons une couronne. Mais cette couronne, il la dépose au pied du trône. Chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration. Alors, à quoi correspond ce chaque fois? Quand les êtres vivants donnent-ils gloire à Dieu sur son trône? Il est dit dans verset 8 qu'on a lu tout à l'heure, jour et nuit, ils ne cessent de dire, on peut peut-être le retrouver, le verset 8. Jour et nuit, il ne cesse de dire « Saint, Saint, Saint ». Sur ce culte, il est éternel, il est permanent dans ces lieux célestes. Dans le psaume 19, verset 2, il est dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu, la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains ». Quand cela se passe-t-il? Toutes les nuits, il est question des cieux de la voûte céleste. Quand est-ce que nous l'apercevons? Surtout la nuit, quand on voit ce ciel étoilé. Et toutes les nuits, et comme il fait toujours nuit sur la moitié de la terre, eh bien, la gloire de Dieu se raconte 24 heures sur 24. Même nous pouvons le voir et nous pouvons avoir ce culte permanent. 24 heures sur 24, ça nous est rappelé par la création. Dans le psaume 39, chapitre 14, David dit, je te célèbre, car j'ai été fait d'une façon merveilleuse. Nous avons tous été faits d'une façon merveilleuse. Je dois avouer que je passe mes bons moments quand j'ai un petit bébé dans les bras, et que toutes les mamans, les papas l'ont fait. Vous l'avez, vous regardez avec quelle perfection cet enfant est fait. La beauté des yeux, la découpe des lèvres, la découpe du nez, enfin, c'est les petites mains, ce sont des merveilles. Et nous sommes tous des merveilles. Ce qu'il y a, c'est que parfois nous en prenons l'habitude et ça devient une chose banale. Mais lorsque nous tombons amoureux d'un homme ou d'une femme, nous redécouvrons malheureusement qu'un temps, ou j'espère plus longtemps, la beauté de cette personne, de cette création, cette créature de Dieu. Donc David dit, je te célèbre car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Est-ce que nous le savons bien? Est-ce que nous l'avons au fond de nous? Oui Seigneur, je sais que ce que tu as fait, c'est étonnant, c'est merveilleux. Et la création tout entière, et particulièrement les êtres vivants, nous sommes revenus autour de ce trône dans les lieux célestes, les êtres vivants rendent un culte sans cesse. Simplement parce qu'ils sont, simplement parce qu'ils existent. Ils sont conscients d'être, ils sont conscients d'être ces créatures. Ils ne le font même pas exprès, c'est une expression naturelle chez eux, involontaire. Mais le culte céleste qui est rendu là-haut est un culte réfléchi, un culte voulu, un culte pensé et exprimé. Dans le livre de l'Exode, et on arrivera ensuite dans l'Exode chapitre 29, dans le livre de l'Exode, il y avait des sacrifices matin et soir. Tous les jours de la semaine, c'était l'holocauste perpétuel. Alors je vous rappelle qu'un holocauste, dans le sens biblique, c'est un sacrifice religieux où la victime était entièrement consumée par le feu. Et cela se répétait des animaux, matin et soir, et tous les jours de la semaine. Dans le Lévitique, il est dit « Le feu brûlera constamment sur l'autel, il ne s'éteindra pas. » Déjà dans ce que Dieu avait voulu pour diriger son peuple, il avait déjà donné un enseignement qui n'était pas toujours compréhensible comme nous pourrions le comprendre maintenant. Mais il a été dit « Le feu brûlera constamment sur l'autel, il ne s'éteindra pas. » Donc ce culte, cette louange, cette offrande que l'on fait à Dieu, déjà à l'époque était conçue pour être permanent. Dans Acte 2, il est dit « Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. » Alors là, nous arrivons dans les premiers temps de l'Église, les premiers chrétiens. Et ces premiers chrétiens, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient le repas dans la joie avec simplicité et cœur, simplicité de cœur. Alors c'est vrai que l'arrière-plan des premiers chrétiens faisait qu'ils ne revenaient pas à l'idée de vivre et d'exprimer leur foi en Jésus une seule fois par semaine. Il n'y avait sans doute pas de rencontre précise appelée culte, parce que toute leur vie et toute leur activité était offerte au Seigneur, était centrée autour du Seigneur, par cette vie en commun et par ce partage des choses banales, simples, des repas. Et très souvent, cela se passait autour d'un temple. Donc la notion de contact avec le Seigneur était là, était présente. Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 12, écrit au premier verset, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps, comme un sacrifice vivant, sain, et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. » Donc là, cet enseignement, il est pour nous, offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Et cela est, d'autre part, d'un culte spirituel. Voilà un culte conforme à ce qui nous est montré dans la vision de Jean. Alors bien sûr, le mot « corps » ne se réduit pas à nos os et à notre chair qui nous permet d'être présents, d'être actifs dans ce monde. Mais englobe bien sûr nos relations, nos professions, tout ce qui en résumé nous appelons notre vie. C'est ça qui est là, cette expression, offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Dans l'ancienne alliance, les sacrifices d'animaux étaient forcément offerts à des moments précis. C'est pour cela qu'il fallait les renouveler souvent. Mais un sacrifice vivant ne peut être que permanent, constant, perpétuel. Si nous devions être 50, ou 10, ou 20, ou 5, pour être ensemble le dimanche matin, ce culte devrait être permanent. On ne s'en sortirait pas, on ne pourrait pas avoir d'activité en dehors de cela. Chacun de nous doit s'occuper de sa famille, du travail, des amis, prendre du temps de repos, faire de l'exercice, aller faire nos courses. Alors il faut que nous comprenions que ce que nous faisons ensemble le dimanche matin ne constitue qu'un aspect de notre culte. Un aspect important, indispensable même, mais un aspect parmi d'autres. Si nous voulons rendre un culte conforme à la parole, nous devons revenir à la grande vision de la vie chrétienne que Paul résume en ces termes dans Colossiens 3. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Tout ce que nous pouvons dire ou faire, pas seulement au début d'un repas ou à la fin ou dans certaines circonstances, mais dans tous les moments, nous devons agir au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père. En conclusion, et j'arrêterai là, et ça s'adresse cette question pour moi aussi, mais elle est percutante. Sommes-nous de ceux qui doivent rallumer le feu de leur piété, et j'entends par la piété le mot dévotion, ferveur, chaque dimanche matin? Et parfois, est-ce qu'on n'est pas tenté de rester à la maison parce que ce feu ne prend pas? Ou le feu de notre foi, de notre amour pour le Seigneur brûle-t-il perpétuellement sur l'autel de notre cœur? Pourquoi est-ce important? C'est important évidemment parce que ce que Jean a vu est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Dieu ne veut pas une relation en pointillé ou épisodique ou occasionnelle. Il veut investir toute notre vie pour y apporter sa grâce. Donc ça, c'est le côté vu de Dieu. De notre côté à nous, c'est important, car seuls ceux qui font de leur vie un sacrifice vivant sont armés pour persévérer et régner à travers les épreuves et les tribulations du présent et celles à venir. Ça veut dire que cette grâce nous permet de passer tout le temps présent, qui parfois est douloureux, ou le temps à venir, qui le sera peut-être. Alors mes sœurs et mes frères, donnons-nous tous, sans exception aucune, rendez-vous autour du trône en compagnie des 24 vieillards. C'est ce que je vous souhaite à tous. Et je terminerai par ce verset dans le chapitre 5, verset 13, qui a résumé ce qui a été déjà dit en introduction et maintenant. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Que ce soit un verset qui nous brûle, qui nous permette d'avoir ce feu allumé en permanence. Pour moi le premier, pour chacun d'entre nous. Amen.